Stop, c'est parti.
Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
C'est votre dernier mot.
Il est 9h40, nous sommes sur France Inter. Soyez les bienvenus, c'est le dernier Instant M de la semaine.
Les gens s'intéressent à la façon dont les médias sont faits.
95 000 téléspectateurs.
Nos abonnements augmentent grâce au numérique.
On fout des sondages.
Cette année, il n'a pas plu à la fête de l'humanité. Pas la peine d'avoir une boule de cristal. C'était déjà un signe palpable de changement. Or, hier, Patrick Appelmüller, surnommé Pam, grande moustache blanchie sous le harnais de l'encre et du papier, a annoncé son départ à la retraite. Il était directeur de la rédaction de l'humanité depuis 2008. Il a passé 36 années au journal. Ça en fait des cotisations et des trimestres. Et vous savez quoi? Il confie les rênes du quotidien communiste à deux de ses journalistes, une femme et un homme, c'est inédit, qui ont fait leur classe à ses côtés et qui, à vue de nez, semble être né autour de 1975. Tiens, tiens, l'âge pivot en matière de calcul des taux. Bref, au comité de rédaction de l'UMA, il a dû se passer ce que vous vivez à vos repas de famille. Deux générations que d'aucuns aimeraient voir s'opposer, mais qui pour l'heure, manifestement, se serrent les coudes.
L'Instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Alors, en radio, ça s'appelle un générique. L'Instant M, réalisation Anne-Cécile Perrin, préparation et programmation Marion Philippe et Redouane Tella, à la technique ce matin, Tiffany Battistel. En presse écrite, on dit un ours, l'humanité. Maude Verniol et Sébastien Crépel, bonjour à tous les deux, soyez les bienvenus.
Bonjour Sonia.
Alors, merci. Quel est votre nouveau titre?
Eh ben, on est co-directeur de la rédaction du journal.
Voilà.
Co-directrice et co-directeur.
Ah, vous y tenez.
Parce que c'est un tandem paritaire, oui, tout à fait.
Absolument. C'est donc chose rare, déjà le tandem. Mais alors, en plus, une femme à la tête de la rédaction d'un quotidien national en France, chère Maude. Il y a Nathalie Nougued qui est très brièvement passée à la tête du journal Le Monde. Il y a Dominique Quignot qui est longtemps restée à la tête de La Croix parce que les cathos ont fait bien mieux que les gauchos. Il n'y a jamais eu de directrice de la rédaction de Libération, par exemple, et vous êtes la première à l'humanité.
Oui.
Félicitations. Vous pourriez nous dire d'un mot, Sébastien, Maude, Sébastien, vos parcours à l'un et à l'autre?
Alors, bon, moi, je me destinais pas au journalisme. C'est les circonstances, finalement, qui ont fait que je suis arrivé à l'humanité. J'étais un militant de l'humanité avant d'être un travailleur de l'humanité.
Ouais.
Un militant tout court, d'ailleurs. Et puis, au fil des rencontres, j'ai été amené à rentrer à l'UMA. Et puis, voilà, j'ai intégré le service politique.
C'est ça.
Ça m'a plu. Ouais. J'ai appris sur place parce que j'ai pas fait d'école de journalisme.
Ouais.
J'avais fait des études de lettres. Et puis, de fil en aiguille, j'ai pris des responsabilités.
D'accord. Et vous étiez, juste avant d'être nommé co-directeur de la rédaction, vous étiez...
Alors, j'étais membre de la rédaction en chef, mais surtout animateur du service économique et social. On appelle ça capital travail à l'humanité.
À l'humanité, Maude.
Oui, pareil. Moi, je me prédestinais pas forcément au journalisme, vu mon milieu social. Et puis, j'ai eu le...
Pourquoi, voilà, vu votre milieu social?
Bon, de classe moyenne, qui n'était pas destinée. Forcément, ouais. Vous savez, les journalistes, à 95%, on en parlera peut-être tout à l'heure, viennent de milieux sociaux très aisés. Et l'humanité, justement, c'est cette richesse de permettre à des agriculteurs, à des ouvriers de devenir journalistes. Il y en a qui ont fait des grandes écoles, il y en a d'autres qui ont appris sur le tard. Et nous, on fait partie de ces personnes qui ont eu la chance de faire des études, voilà, Hippocagne, puis études de philosophie, moi en l'occurrence à Paris 1. Et puis l'humanité nous a offert cette grande chance de nous apprendre ce fabuleux métier.
Et vous bossiez dans quel sillon du journal avant d'être nommée co-directrice de la rédaction?
Moi, j'ai intégré l'Humanité dimanche d'abord, ce bel hebdomadaire qui n'est pas assez connu, à la rubrique culture. Et puis j'ai demandé à passer au quotidien, à la rubrique politique, pour être un peu dans le cœur du moteur. Et j'ai commencé par suivre les années Sarkozy.
Bien, merci. Alors, comme c'est vendredi, évidemment, Bruno Donnet est à nos côtés pour sa semaine médiatique. Bonjour camarade.
Bonjour à vous, pivot de l'info.
Est-ce qu'on dit toujours camarade à l'UMA? Oui,
oui, ça nous arrive, mais bon, voilà. On s'appelle aussi par nos prénoms.
Le vendredi, jour de Madeleine. Alors, Mon cadeau, c'est un film documentaire édité par l'INA sur l'histoire du PSG, sur la création du club parisien dans les années 60. Pour gagner ce film que je vous offre ce matin, comme d'habitude, un mail à l'instantm@radiofrance.com. Voici la question de ce vendredi. Je vais vous faire écouter une grande voix de la météo. Quel est son nom?
Une belle accalmie sur le front des orages. Ceux qui se trouvaient dans l'est et le sud-est s'en vont en direction de l'Europe centrale. Et ceux qui arrivent par le sud-ouest ne franchiront les Pyrénées que dans la nuit de dimanche à lundi.
Là, je sais que vous êtes déjà très 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 nombreux à vous ruer sur vos mails, l'instantm@radiofrance.com. Quel est le nom de cette célèbre voix de la météo que je viens de vous faire entendre? Good luck and good morning, comme on disait sur CBS. Cette semaine, Bruno Donnet, face à une actualité totalement dominée par les grèves et la réforme des retraites, vous vous êtes posé une question. Qu'est-ce qu'une priorité en matière politique et médiatique?
Oui, ça ne vous aura pas échappé, Sonia. Cette semaine, impossible d'allumer la télé sans avoir droit au comptage matinal des kilomètres de bouchons.
353 kilomètres d'embouteillage cumulés désormais.
Aux scènes consternantes de baston dans les transports.
Les gens se poussaient à coups, il y en a, ils sont tombés dans les escaliers, c'est affolant, j'ai jamais vu ça.
Et à la bobine d'Edouard Philippe, chargé de nous faire avaler qu'il faudra désormais travailler plus longtemps pour avoir droit à une retraite à taux plein.
Je voudrais que tous les Français le sachent.
Impossible d'y échapper, tout simplement parce que la priorité du gouvernement, réformer le régime des retraites, a causé un bordel colossal dans le pays qui est devenu la priorité des médias. Mais alors, c'est quoi au juste une priorité? Eh bien, en matière médiatique, c'est pas compliqué, le nouveau prime systématiquement sur l'important. Mais en matière politique, alors, comment ça se passe? Est-ce que la priorité, comme on pourrait légitimement l'espérer, est toujours donnée à ce qui est le plus important? Eh bien, pour répondre à cette question, il suffisait cette semaine de rapprocher deux informations, deux annonces qui ont été faites quasi simultanément et dont l'inégalité de traitement m'a laissé sur l'océan. Car figurez-vous qu'au moment même où le Premier ministre jugeait urgentissime de réformer un système de retraite qui fonctionne parfaitement, mais qui sera probablement en déficit d'ici quelques décennies, la secrétaire d'État à l'environnement, Brune Poirson, annonçait une mesure spectaculaire qui engage un problème qui, lui, est déjà bel et bien sous nos yeux, le changement climatique.
Hier, à l'Assemblée nationale, nous avons voté l'interdiction des plastiques jetables.
Une mesure majeure donc, assortie toutefois d'une petite précision.
Hier à l'Assemblée nationale, nous avons voté l'interdiction des plastiques jetables d'ici 2040.
D'ici 2040, qu'elle a dit la madame, excusez du peu, pendant que, encore plus mieux, cette nuit, le sommet européen adoptait un accord partiel sur la neutralité carbone d'ici 2050. En d'autres termes, cette semaine, nos politiques ont tranquillement décidé d'inverser la chronologie des priorités. Ils ont fait l'analyse que l'équilibre budgétaire des retraites devait être atteint immédiatement, mais que l'équilibre climatique pouvait bien attendre 20 ou 30 piges, alors que les faits commandent rigoureusement l'inverse. Et les médias dans tout ça, eh bien, ils ont accompagné le mouvement, affrété des hélicoptères pour filmer les embouteillages pendant des heures et choisi de traiter les décisions environnementales sous forme de brèves de 30 secondes. « Nous sommes nos choix », écrivait Jean-Paul Sartre. « Ceux effectués cette semaine ne m'ont guère rassuré qui m'ont semblé ériger le slogan de BFM TV » priorité au direct, en maxime cardinale et entériné qu'à la télévision, l'immédiat et le temps court prime généralement sur la réflexion et le temps long. Toutefois, Sonia, il y a de l'espoir.
Ah ouais.
Oui, car figurez-vous que les priorités, eh ben, ça peut changer. La preuve, je suis venu ce matin avec une archive succulente sous le coude. C'était il y a pas bien longtemps. Écoutez donc ce qu'un certain Emmanuel Macron, dont le Premier ministre vante aujourd'hui bec et ongle les vertus du départ à la retraite à 64 ans, nous disait le 25 avril dernier en pleine conférence de presse.
Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans?
Voilà, Emmanuel Macron.
Je ne crois pas.
Emmanuel Macron qui donnait à sa décision deux explications.
La première, c'est que je me suis engagé à ne pas le faire.
Un engagement accompagné d'une priorité.
Tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal.
Je vous le disais, Sonia, les priorités, ça peut changer, suffit d'en évaluer la pénibilité et de les soumettre à un régime spécial.
C'est ça. Et d'avoir des journalistes amnésiques, c'est bien plus pratique. Merci Bruno Donnet. À réécouter sur franceinter.fr. La réponse pour ce jeu du vendredi, il fallait reconnaître la voix de l'inoubliable Jacques Kessler qui a été très très longtemps, aussi longtemps que Patrick Appelmuller à la tête de l'humanité. Une voix de Radio France, il est à la retraite aujourd'hui et nous le saluons amicalement. Sébastien, un autre Sébastien, pas mon invité, remporte le jeu de ce matin. Mais je voulais dire que vous êtes très 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 nombreux à avoir répondu et très 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 nombreux à avoir confondu du Jacques Kessler et Joël Collado, on vous pardonne.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'avenir des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. on est là.
Ils viennent tout juste d'être nommés co-directrices et co-directeurs de la rédaction de l'Humanité. Maud Verniolle et Sébastien Crépel sont les invités de l'Instant M. Un petit mot sur votre une de la semaine dernière, ou d'il y a 15 jours, je ne sais plus, je l'ai trouvé très jolie. C'était un fond blanc et c'était le point de la contestation levée et fermée. Et c'était un emoji, comme ceux que nous proposent nos smartphones. D'où est venue cette idée?
En fait, ça, c'est une une qui a été diffusée uniquement sur le web. Oui. Je crois que c'était le jour où on n'était pas diffusé.
Oui, oui, c'était le jour de la grande manif et de la grande grève.
Le lendemain. Et là, c'était, voilà, on était sur le web. C'était l'idée, voilà, d'afficher le point du combat ce jour-là.
Et de reprendre un langage, du coup, qui est un langage numérique, de faire le pont aussi entre deux générations.
C'est ça.
Celle qui a une tradition de Sébastien Crépel, de la contestation, une tradition de la manif, un savoir-faire en la matière. Oui. Et puis celle qui la découvre aujourd'hui.
Oui, c'est parfois la même d'ailleurs. Hein. Ouais. C'est-à-dire que ceux qui ont l'habitude des manifestations se sont mis aussi aux réseaux sociaux. Et cette une qu'on a sortie ce jour-là, en fait, elle a vocation aussi à perdurer parce que c'est un peu une campagne de communication. Elle a été très reprise, très partagée. Et donc, ça vise effectivement à faire connaître le titre en reprenant, comme vous le disiez, les signes, les symboles de la communication numérique.
Alors, un mot avant qu'on commence, un mot sur le sort de l'Humanité qui s'est joué il y a un an au tribunal de commerce. Où en êtes-vous? L'Humanité a failli mourir.
Oui, tout à fait. Et on va mieux. Mm-hmm. On va mieux. Alors, ça n'a pas été sans sacrifice douloureux. On a payé un prix lourd aux difficultés que nous rencontrions. Et là, on a une audience qui aura lieu le 18 décembre. Mm-hmm. On a bon espoir. En tout cas, on se bat pour ça, pour sortir de cette période particulière. Et donc, que
sortir
le tribunal...
du plan de redressement.
Oui, tout à fait,
en
du plan de redressement judiciaire.
Ouais.
Plan de redressement judiciaire, d'ailleurs, qui était la seule option pour nous, hein. La meilleure des options et la seule.
Absolument,
puisque...
c'était une victoire pour vous que le tribunal vous l'accorde.
Oui, c'est ça, puisqu'on s'est placé en quelque sorte sous la protection du tribunal, ce qui a permis d'éviter le risque de fermeture, de disparition du journal.
Donc, quelle est votre pagination aujourd'hui? Combien de cartes de presse autour de vous à la rédaction?
Alors, bon, j'ai pas les chiffres exacts, mais en journaliste permanent, on doit être autour
d'une cinquantaine
voilà, de journalistes. Si on compte les correspondants, les pigistes, on est sur un volume plus important, de l'ordre d'une centaine, si je ne me trompe pas, mais c'est des collaborations plus régulières, mais pas permanentes.
Oui, bien sûr.
Ça s'est traduit en tous les cas, ce plan de redressement, par des efforts importants qu'on nous a demandé. Hein. On ne pouvait plus faire de dettes. Il fallait donc réduire les moyens du journal et en particulier les personnels. Et donc on a supprimé une trentaine de postes, si on compte en équivalent temps plein. Et donc forcément ça pèse sur les équipes du journal.
Alors,
mais
Luma,
c'était
ouais.
nécessaire. Ouais. C'était indispensable. Et aujourd'hui, eh bien, on est en phase de redéploiement, de redéveloppement du journal.
Alors, Luma, c'est 33 000 exemplaires vendus en France chaque jour, c'est ça à peu près?
Oui, en fait, ça c'est les chiffres de l'OJD.
Oui.
Ils comptent les années 2018-2019, si vous avez bien vu. Or, en 2019, cette période donc de redressement judiciaire, c'est aussi accompagné d'une forte campagne de soutien du journal. C'est là qu'on a encore démontré qu'il y avait toute une communauté qui soutient le journal.
5 000 abonnements.
Et donc on a engrangé plus de 4 000 abonnements, peut-être 5 000 effectivement dans l'année, ce qui représente proportionnellement à notre diffusion un chiffre considérable. Je crois qu'aucun titre de presse cette année n'a obtenu plus de 10% plus de 10% d'abonnements supplémentaires donc en moins de 12 mois et donc aujourd'hui on est au-dessus de ces 33 000.
C'est la question
on doit être à 36 000 je crois.
Quelle est la place de l'Humanité dans la couverture des luttes sociales et des mouvements sociaux? C'est extrêmement intéressant de se poser la question aujourd'hui, évidemment en pleine grève, en pleine manif sur les retraites, mais aussi après un an de gilets jaunes où on a vu justement une forte contestation de la couverture médiatique et du traitement médiatique qui a été fait du mouvement, où on a vu aussi une formidable élasticité de la circulation de l'information passant aussi beaucoup par Facebook, par des reporters de terrain indépendants, par des médias faibles, comme on dit, qui parfois ont donné le là et ont embarqué avec eux les médias forts, Maud Verniolle.
Ouais, moi je préfère parler de médias libres que de médias faibles. C'est vrai que le mouvement des Gilets jaunes, il a été passionnant et il a tendu un miroir assez passionnant aussi sur ce qu'est le paysage médiatique en France. Il a bouleversé toutes les rédactions, on n'a pas eu d'exemple de ça, on s'est posé beaucoup de questions, mais on a été exalté par cette irruption de la parole populaire qui manque trop dans les médias et qui est nous un peu l'ADN du journal.
Absolument.
Et donc, ça c'est peut-être pas suffisamment vu, mais on a été parmi les premiers à envoyer des journalistes sur le long terme, hein, qui sont restés deux nuits, deux jours, des semaines entières. On les a invités sur la grande scène de la fête de l'humanité. Donc voilà, nous on a été, contents de ce mouvement-là, à la fois pour cette irruption de la parole populaire, et puis effectivement la manière dont il nous a bousculé et dont il a interrogé la société française sur le traitement médiatique. Mmh. On est en plein mouvement social là. Seb en parlera mieux que moi parce qu'il a dirigé cette rubrique, mais ce qui est quand même intéressant, prenons un exemple concret aujourd'hui sur les cheminots par exemple, qui vont être quand même la cible de beaucoup d'attaques. Voilà, les cheminots, quand on regarde la presse que j'ai fait avant de venir ici ce matin, c'est quand même le discours ambiant dans une grande partie de la presse, on va dire, parce qu'on met pas tout le monde dans le même panier, c'est ces privilégiés qui prennent en otage les Français, comme si d'ailleurs les grévistes n'étaient pas des Français par ailleurs et voilà, n'avaient pas à vivre aussi avec la grève au quotidien. Et moi ce que je trouve important et ce qui, je pense, est la marque de fabrique de l'humanité, c'est l'incarnation des luttes sociales. Si on ne va pas... bien sûr, hein, plein d'autres journaux font parler les cheminots, et je ne dis pas qu'on est les seuls à faire ça, hein, mais si on ne va pas rencontrer les cheminots, qu'on ne passe pas 24 heures sur le piquet de grève avec eux, qu'on n'interroge pas leurs femmes, leurs enfants, sur comment ils vont faire pour fêter Noël avec quasiment pas de salaire à la fin du mois, on ne comprend rien au mouvement social. Et ça concerne l'électeur progressiste, mais j'ai envie de dire, ça concerne tout le monde. Monsieur Roux de Bézieux, il a aussi intérêt à lire l'Humanité pour comprendre le mouvement social.
Hier, l'UMA a fait référence au discours de Pierre Bourdieu, discours tenu le 12 décembre 1995 après 3 semaines de manif devant les cheminots de la gare de Lyon. Discours que, grâce à vous, j'ai découvert, puisque moi, j'ignorais ce discours. Discours, c'est une force de frappe absolument incroyable, Sébastien.
Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a décidé de le ressortir à la date anniversaire, parce qu'il nous semblait aussi important de faire un parallèle, même si l'histoire se répète pas, mais entre le mouvement qui se jouait en 95 et le mouvement qui se joue aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une continuité des luttes, et il nous semble que la parole des intellectuels l'incarne bien. Et donc, c'était pas tant de jouer la carte de la nostalgie.
C'est ça, mais c'est intéressant.
Il y a sans doute des choses
dit...
dans ce que disait Pierre Bourdieu qui seraient sans doute pas dites aujourd'hui de la même façon,
mais d'une grande actualité. C'est-à-dire que Bourdieu dit aujourd'hui, ce qui est frappant, la raison et la modernité, le mouvement, le changement sont du côté, soi-disant, des gouvernants, des ministres, des patrons, des experts, et la déraison, l'irrationnel, l'archaïsme, l'inertie, le conservatisme, du côté du peuple, des syndicats et des intellectuels critiques qui seraient comme ça crispés sur des positions pour que rien ne change. Et il pointe quelque chose d'intéressant qui vous interroge, vous, médias, c'est justement cette façon dont on estime le savoir confisqué par une part de l'élite et pas donné à ce peuple qui se soulève, Maud Vernon.
C'est la vocation première d'un journal comme le nôtre, en fait. Nous, on est un journal, faut le rappeler, on est un quotidien généraliste, c'est-à-dire que effectivement, on traite la politique, le social, fait partie de notre ADN, mais on tient, malgré nos petits moyens et nos petits bras, à avoir toujours des pages débat, des pages de culture qui sont d'une grande qualité. Et il y a une fonction d'éducation populaire dans la presse que nous assumons et qui est absolument essentielle, en effet.
Alors on s'est demandé,
excusez-moi, mais j'ajoute aussi que ce que dit Bourdieu, et moi c'est ça qui me semble fondamental, c'est il pose la question, où est le mouvement? Est-ce qu'il est du côté de ceux qui se prétendent réformateurs, ou est-ce qu'il est du côté de ceux qui se mobilisent? Et moi je pense que, on parlait des Gilets jaunes tout à l'heure, généralement le travailleur ordinaire, c'est pas lui qui fait l'actualité, en tout cas il est pas à la une des grands médias, non pas que il ne parle pas des problèmes de la pauvreté, des salaires, ces questions sont traitées par tous les médias, mais le travailleur ordinaire, sa vie, son opinion, la manière dont il réclame une reconnaissance, et où les médias peuvent lui donner une place, en temps ordinaire, ils sont relativement effacés. Et les Gilets jaunes, de mon point de vue, ont crédibilisé les options journalistiques qui sont les nôtres. Ce qui n'est pas évident de vérifier ça tous les jours.
Alors,
elles sont à deux titres. Le premier, c'est un, le travailleur ordinaire. Peut-être au centre de l'actualité, et c'est lui qui peut faire l'actualité. C'est là où on rejoint Bourdieu. Le mouvement, il est du côté des humbles, des modestes.
Et là, vous êtes en concurrence avec qui, Sébastien Crépel ? Parce que moi, je me suis dit, finalement, qui fait ce travail-là au quotidien ? La presse quotidienne régionale, non ? C'est peut-être là qu'il faut aller chercher des médias concurrents du vôtre. Le Courrier Picard, l'Est Républicain, La Montagne, c'est-à-dire des journaux qui sont ancrés dans des régions défavorisées et qui les suivent au quotidien.
Oui, sans doute. Et puis parce que, du fait de leur statut de quotidien, de proximité, on va dire, eh bien, ils sont obligés de s'intéresser de plus près à la vie des gens.
C'est ça.
Et donc, font presque un métier différent que celui d'une partie, on va dire, des grands
nationale.
Médias. Alors, j'aime pas, moi, je parle pas des médias en général. J'ai bien conscience que les traitements sont pas les mêmes d'un média à l'autre. Ceci dit, il y a certains jours où c'est difficile de s'en rendre compte. Et nous, l'UMA, vous citiez les quotidiens régionaux. En tout cas, nous, dans le paysage de la presse nationale, on essaye effectivement de faire entendre une autre voix. On parlait tout à l'heure des difficultés du journal. C'est pas qu'une question d'équilibre comptable du journal, c'est aussi une question politique, c'est le pluralisme dans le pays. Et sans l'UMA, sans cette voix-là, même s'il y a plusieurs titres nationaux, je suis pas sûr que le pluralisme existerait vraiment.
Merci beaucoup à tous les deux, Maud Vergnol et Sébastien Crépel, d'avoir été les invités de l'Instant
Merci,
M ce matin.